11h sur Radio Campus Tour, auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez. Et voici que s'avance une nouvelle émission en partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Mon invité aujourd'hui, c'est Thibault Labout. Bonjour.
Bonjour Mélissa.
Alors Thibault Labout, chercheur INSERM à l'unité iBrain. Peut-être tout d'abord voulez-vous nous parler de votre parcours, parce que je crois que si j'ai bien lu votre compte LinkedIn, il faut 10 ans pour faire un chercheur de 2010 à 2019. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire, disons, de la première étape de ce parcours?
Eh ben effectivement, Mélissa, c'est un long parcours. En fait, on commence à faire de la recherche dès sa thèse. C'est un statut qui est un petit peu bâtard, puisqu'on est encore étudiant, mais on est salarié, on est payé et on produit de la connaissance. Je considère que c'est à partir de ce moment-là, moi, qu'on est vraiment devenu chercheur. Pour accéder à la thèse, il faut avoir fait un master et réussir un concours d'entrée à la thèse. Une fois thésard, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui font leur doctorat, on produit de la recherche, on produit des connaissances. Et on essaie de comprendre des mécanismes. Moi, je me suis intéressé à un petit récepteur dans le cerveau qui est très important pour la connectivité des cellules qui sont dans le cerveau, qu'on appelle des neurones. Voilà. Et puis, à l'issue de la thèse qu'on défend, la plupart des chercheurs vont en postdoc. Donc le postdoc, c'est une étape où on change de laboratoire et on va essayer d'étudier d'autres mécanismes, d'autres questions biologiques. Et pour ma part, moi, je suis allé étudier un autre récepteur qui est important pour la dépression. Et j'ai fait ça aux États-Unis. Je me suis retrouvé à côté de Miami, en Floride, et j'ai travaillé sur un nouveau programme de recherche qui s'intéressait à mieux comprendre ce récepteur. Et ça a duré 3 ans et demi. Et puis voilà, après, j'ai fait un deuxième postdoc. Je suis revenu en France. Et pendant ce deuxième postdoc, j'ai candidaté au concours de l'INSERM pour devenir chercheur titulaire. Et j'ai eu mon concours et ben voilà, aujourd'hui.
Alors peut-être quelques précisions pour nos auditeurs et auditrices étudiants. Quel parcours vous avez fait entre le master? Qu'est-ce que vous avez choisi comme stage? Qu'est-ce que vous avez choisi comme master d'ailleurs pour devenir spécialiste du cerveau?
Alors en fait, moi j'ai un parcours un peu particulier. Ce qu'il faut retenir, je pense que ce qui est important, c'est pas vraiment le contenu exact du master, même si bien sûr ça aide pour pouvoir passer son concours. Moi, j'ai un master d'infectiologie et d'immunologie, et pourtant j'ai fait ma thèse en neurologie. Ce qui m'intéressait pendant mon master, c'était les anticorps, parce que je fabrique des tout petits anticorps un petit peu particuliers, qui s'appellent des nanobodies. Bon, et dans le projet de thèse, je me suis intéressé à un récepteur dans le cerveau, sur les neurones. Et pour pouvoir l'étudier, j'ai développé des tout petits anticorps, des nanobodies, qui ciblent ce récepteur. Donc le message finalement, c'est de dire, est-ce que mon master me prédestinait à cette thèse? Pas du tout. En revanche, je me suis servi de ce que j'ai fait dans mon master pour l'appliquer à des thématiques qui sont dans la neurologie.
Ah ah, faut faire feu de tout bois alors. Et alors l'INSERM, pourquoi? Pourquoi vous avez envie de travailler pour l'INSERM? C'est le public?
Oui, alors, en fait, l'INSERM, c'est l'Institut de recherche pour la santé médicale. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la recherche fondamentale appliquée à la santé humaine. Et pour ça, l'INSERM, c'est l'Institut français qui s'occupe de ça.
Sachant que peut-être que les salaires sont moins attractifs dans le public que dans le privé. Alors, est-ce que c'est une réalité? Et
Oui, c'est tout à fait vrai. Après, il faut tout remettre bien en ligne. Oui, le privé paye mieux, mais ce n'est pas le même travail. Moi, je suis libre de penser et de produire la recherche qui m'intéresse, à condition, bien sûr, de rester dans la recherche en santé humaine, encore que. En tous les cas, Je suis relativement libre de penser et de produire la recherche que je veux, à condition de trouver de l'argent aussi, bien sûr, pour ça. On en discutera après. Alors que dans l'industrie, la plupart du temps, le but de la recherche, c'est de produire de l'argent et non pas des connaissances. C'est un autre métier qui n'est pas fait pour les mêmes personnes, en tout cas pas dans le même état d'esprit. Même si, en fin de compte, on peut faire la même expérience, on ne le fait pas pour la même chose.
Donc c'était un but qui vous intéressait plus ?
Ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Et si ça doit prendre longtemps, eh ben, ça prendra longtemps. Si ça n'a pas d'intérêt mercantile, ben, ça ne m'empêchera pas de le faire. Bien sûr, à la fin, il faut que ce soit une recherche financée. Et il faut aussi qu'il y ait un attrait scientifique, un mécanisme qui ait du sens.
Comment on arrive dans une unité INSERM alors ? Est-ce qu'on est le nouveau ?
Alors c'est marrant parce que en fait on est le nouveau pendant sa thèse et puis après on n'est plus jamais le nouveau parce que tout le monde se connaît. Pendant mon deuxième postdoc, après être revenu des États-Unis, j'ai travaillé dans le laboratoire pour lequel j'ai eu mon concours. Donc j'étais plus vraiment le nouveau.
Donc vous ambitionnez de rester là toute votre carrière ?
Alors c'est ce que moi j'aimerais bien sûr beaucoup. J'ai candidaté au concours pour ça et j'espère pouvoir faire grandir ma recherche dans l'INSERM et avec tous les collaborateurs qui ne sont pas nécessairement INSERM. En revanche, on a des collaborateurs universitaires, des collaborateurs CNRS et il y a d'autres instituts qui sont aussi tout à fait louables, ou académiques ou pas d'ailleurs. On a quelquefois même des collaborations avec des industriels. C'est pas antagoniste, c'est juste pas le même but. Quelquefois, les intérêts convergent. Et à ce moment-là, il faut en profiter pour travailler ensemble.
Alors allez, un petit traité de cervologie à l'usage des non-sachants. On va aller voir ce qui se passe sous la boîte crânienne. Donc vous avez évoqué des diverses petites cellules sur lesquelles vous travaillez. Mais peut-être avant de se pencher sur ces cellules, on peut rappeler comment fonctionnent les cellules cérébrales. Donc comment circulent les informations dans le cerveau ?
C'est une très bonne question.
Merci.
Je pense que c'est à l'origine de plein de choses. Il se trouve que toutes les cellules de notre corps, ou presque, ont à leur surface des récepteurs. Ce sont des petites protéines qui permettent de recevoir de l'information depuis l'extérieur et de transmettre ces informations à l'intérieur de la cellule. C'est le rôle du récepteur. Les neurones sont un petit peu particuliers puisque c'est des cellules qui sont dans notre cerveau qui se divisent assez peu et qui sont extrêmement connectées les unes aux autres. Typiquement, un neurone, il va recevoir une information. Je vais prendre par exemple l'information du goût. Le goût, on peut décomposer l'ensemble des molécules qui sont dans un goût, dans une saveur. On peut les décomposer en plein de plusieurs petites molécules. On peut imaginer cette petite molécule du goût A qui se fixe sur le récepteur A, sur la langue, et ensuite l'information va transiter de cellule en cellule, de neurone en neurone, par ce qu'ils appellent des potentiels d'action. Donc il y a une sorte d'électricité qui traverse le neurone, et à la fin du neurone, il y a la relâche d'une autre information, un composé chimique, un ligand, qui va être relargué dans la synapse, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre les neurones, pour passer d'un neurone à l'autre, etc., etc., jusqu'à ce que l'information soit complètement intégrée et que le cerveau comprenne de quel goût il s'agit.
On va dire que c'est comme une chaîne de colis Amazon, pour être un peu vulgaire. Il y a des gens qui se balancent les colis d'une chaîne à l'autre.
C'est ça. Et sauf que les gens se jettent des colis et il y a certaines personnes qui ouvrent les colis, qui trient l'information, qui trient les différents contenus du colis et qui donnent une partie à certaines personnes, une autre partie à certaines personnes. Puis ces autres personnes empaquetent à nouveau d'autres objets dans des nouveaux colis et le donnent à nouveau à d'autres personnes. Ouais, c'est exactement ça.
Peut-être qu'on peut faire une pause musicale, sauf si vous souhaitez ajouter d'autres éléments sur ce fonctionnement des cellules qui vous semblerait utile pour bien comprendre après quels sont vos travaux.
Je pense que c'est assez clair. Voilà, il faut juste se souvenir qu'un récepteur, c'est une petite protéine qui est à la surface des cellules, mais particulièrement à la surface des neurones, qui va transmettre de l'information depuis l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule pour que l'information puisse être parcouru d'un neurone à l'autre.
Alors, on va faire une pause musicale. Que va-t-on écouter ?
Queen, Don't Stop Me Now.
Okay.
Parce que le boulot de chercheur, et de chercheur de n'importe quelle catégorie, c'est un petit peu ça. Ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît.
Bon, ben, bons entendeurs. On va écouter ça sur Radio Campus Tour. On se retrouve tout de suite après. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Voilà, auditeurs, auditrices, dans vos oreilles, c'était une chanson de Queen. Vous écoutez toujours Radio Campus Tour, c'est La Méridienne. Et mon invité, c'est Thibaut Labout. Alors, on va se pencher un peu sur les sciences exactes. Attention, je vais dire une suite de lettres et de chiffres. C'est GPR158.
Eh bien, je vous expliquais tout à l'heure ce que c'était un récepteur. GPR158, c'est l'un des récepteurs qu'on retrouve dans le cerveau, particulièrement dans le cortex préfrontal, et qui est extrêmement important, notamment pour la dépression. Alors, il porte des chiffres et des lettres parce qu'il est orphelin. Ça veut dire qu'on ne connaît pas encore son ligand endogène. Par exemple, il y a d'autres récepteurs qui sont très connus, comme le récepteur à la morphine, qu'on appelle mu-opioïde récepteur, le récepteur mu aux opioïdes, qui n'a plus de lettres et de chiffres parce qu'on sait à quoi il sert et qui est son ligand qui l'active. Pour GPR158, on ne le connaît pas, son ligand. On sait seulement que les patients qui présentent une dépression majeure ont une surexpression. On le retrouve en très grand nombre, ce récepteur-là, GPR158, dans le cortex préfrontal. On sait aussi que si on fait des techniques de génétique avec les souris et qu'on enlève le récepteur à des souris, on a des souris qui sont plus du tout sensibles au stress, qui développent plus de dépression. À l'inverse, si on met plus de récepteurs chez des souris, on a des souris très sensibles qui deviennent très très rapidement dépressives. Donc on sait que ce récepteur est important. En revanche, quand j'ai commencé mes travaux, on ne savait pas plus. On ne savait ni le ligand, ni la façon avec laquelle il transmet l'information, c'est-à-dire sa voie de signalisation.
Et il sert que dans le cadre de la dépression, ce récepteur, ou il a d'autres fonctions ?
Alors, il a encore d'autres fonctions, mais chacune de ces fonctions est encore en cours d'étude. La fonction pour laquelle j'ai étudié ce récepteur, c'est les fonctions qu'il a dans le cerveau. On le trouve aussi éventuellement dans certains cancers, donc de façon anormale. Mais dans le cerveau, on sait qu'il a des propriétés, notamment dans la formation et la caractérisation des synapses, qu'il est impliqué dans la dépression et dans la cognition.
Donc ce ne serait pas une bonne idée de le supprimer totalement ?
Non, ce ne serait pas une bonne idée.
Alors, on a un récepteur orphelin, et dans les articles que vous m'avez fait parvenir, on voit qu'il devient MGLYR. C'est quoi cette transformation soudaine ?
Alors en fait, c'est parce que en l'étudiant, j'ai pu identifier son récepteur qui s'appelle la glycine, qui s'appelle au début GLY. Et donc, puisque c'est un récepteur qu'on appelle de la classe C, on peut dire un métabotropique. Et donc, je lui ai changé de nom, je lui ai donné un nouveau nom qu'on appelle récepteur métabotropique à la glycine, qui se contracte par MGLIR. Voilà, la glycine, l'acide aminé, pas la plante.
Et donc c'est quoi ça, cette glycine ? Elle sert à quoi ? C'est quoi exactement ?
Donc c'est un acide aminé, c'est une petite molécule qu'on possède tous chez nous, dans notre corps, et qui est, pour le cas de GPR158, relâchée dans les synapses en même temps que le glutamate, et qui va aller se fixer sur le récepteur métabotropique à la glycine, et qui va donc freiner l'activité d'un régulateur qui s'appelle RGS7. Bon, peut-être que c'est un peu trop technique, mais l'idée, c'est que la façon avec laquelle ce récepteur s'active, c'est grâce à la liaison entre la glycine, l'acide aminé, et le récepteur, et que c'est ça qui transmet l'information à l'intérieur du neurone. Mais la glycine, c'est un petit peu simple, et c'est pas très spécifique. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai développé un tout petit anticorps qu'on appelle un nanobody qui va se fixer sur ce récepteur à la glycine et qui va moduler les fonctions, notamment dans la dépression, l'idée étant de faire un nanobody qui sera un futur antidépresseur.
Comment ça se fabrique, ça, un nanobody ?
Alors en fait, il faut faire un vaccin. Au tout début, il faut vacciner un lama ou en tout cas un camélidé, que ce soit un dromadaire ou voilà, un alpaga. Car c'est des animaux qui ont la particularité d'avoir uniquement des chaînes lourdes dans leurs immunoglobulines de type IgG2 et IgG3. Une fois l'animal vacciné, on peut faire une prise de sang et récupérer uniquement leurs lymphocytes B, amplifier exclusivement la partie variable de ces immunoglobulines de type IgG2 et IgG3 et par construction génique, créer une banque de phages qu'on va ensuite cribler contre notre récepteur d'intérêt et ainsi pouvoir sélectionner, identifier un nanobody, un fragment d'anticorps qui sera spécifique de notre récepteur. Et une fois qu'on a sélectionné un grand nombre de candidats intéressants, on peut essayer de voir leur fonction pharmacologique et choisir celui qui nous intéresse.
Et donc, qu'est-ce qui se passe si on envoie ce nanobody dans le cerveau d'un dépressif ?
Et ben, c'est ce qu'on a fait chez la souris, parce que pour l'instant, c'est des études qu'on fait chez l'animal. On n'est pas évidemment encore à l'étape de l'humain, mais j'espère un jour peut-être. Si on prend une souris qui est modèle de la dépression et qu'on lui administre ce nanobody, eh ben, on réduit la dépression chez ces souris. On les réduit de la même proportion que les traitements qui sont approuvés par la FDA, notamment la kétamine.
Comment on fait alors pour mettre une souris dans un état proche de la dépression ?
Alors, il y a plusieurs paradigmes. Le paradigme qui a été utilisé dans notre étude, c'est le UCMS pour Unpredictable Chronic Mild Stress. Donc en fait, c'est une succession de stress répétés, pas trop important, mais répétés pour la souris jusqu'à ce que, en fait, voilà, elle devienne dépressive. Ça dure à peu près un mois, l'opération.
Et donc tout ça, ça vous mène à une demande de brevet.
Oui, alors en fait, j'ai fait deux brevets à ce moment-là. Un premier brevet, parce que j'ai mis au point un petit test pharmacologique qui me permet de contrôler, de monitorer, en anglais on dit, en français on dit mesurer, disons, l'état d'activité du récepteur. Ça, c'est un premier brevet, un brevet outil, si j'ose dire. Et puis un second brevet qui protège la propriété intellectuelle du nanobody que j'ai créé, voilà. Et donc, bien sûr, j'espère qu'un jour il y ait des pharmas qui puissent s'en saisir pour pouvoir faire les premiers essais chez l'humain et voir si ça pourrait être un bon outil. Le nombre de personnes qui souffrent ou qui ont souffert dans leur vie d'une dépression, c'est une personne sur cinq, c'est 20% de la population, d'après l'OMS. Donc c'est quand même énorme.
Et comment il serait administré alors ce médicament ?
Eh bien, il serait administré par voie nasale. Donc l'administration de ce petit anticorps, ce fragment d'anticorps qu'on appelle un nanobody, chez la souris, elle a été faite per nasale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aiguille ou de seringue. On utilise uniquement un petit pchit, voilà, comme on a l'habitude d'utiliser cet hiver, qui va projeter des gouttelettes dans le nez, dans le tractus nasal des patients ou des souris. Et en fait, puisque la molécule est suffisamment petite, elle peut passer la barrière hématoencéphalique et aller se fixer sur son récepteur d'intérêt, ici, GPR158.
Donc là, il y a encore évidemment des ajustements à faire déjà pour aller chez l'humain, donc ça prend quelques années. Et ensuite, sur l'idée, c'est un traitement en une fois ou faudra prendre au long cours ?
Pour l'instant, on ne peut pas donner une réponse. On sait que le traitement fonctionne en une fois, on sait qu'il fonctionne entre 7 et 14 jours. Mais voilà, la suite, c'est des études longues, chères, et qui ne sont plus dans mes compétences. Donc moi, je laisserai la main à des gens compétents pour ça et qui vont faire vivre la suite du projet.
C'est pas pour tout de suite, peut-être ?
Non, je pense qu'il reste encore entre 10 et 15 ans d'études pour un truc comme ça. Ouais.
Quel rôle allez-vous jouer alors pendant ces 10 à 15 ans ?
Eh bien, l'essentiel est déjà fait pour moi. C'est-à-dire que le principe pour moi, c'était de comprendre comment fonctionne ce récepteur. C'est maintenant chose faite, je l'ai même renommé. Le deuxième principe, c'était de mettre au point une molécule qui puisse être modulateur pharmacologique de ce récepteur. Et ça, c'est fait aussi, de démontrer le mode de fonctionnement. Et après, l'utilisation de la molécule sera un autre métier et d'autres personnes. Moi, je vais bien sûr dire ce que j'en pense, mais ce ne sera plus moi qui aurai les manettes.
Comment on se sent alors quand on donne un nom à un récepteur comme ça ? On a l'impression d'être Dieu.
Alors déjà, je n'ai pas donné mon nom au récepteur.
Oui, vous auriez pu, c'est vrai.
Il y a plein de gens qui font ça. Moi, je pense que c'était important d'avoir la fonction métabotropique et la cible glycine pour ce récepteur. Je trouvais ça beaucoup plus utile pour la communauté.
Est-ce que vous voulez faire une nouvelle pause musicale ?
Allez.
Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Et on va écouter les Pink Floyd, Another Brick in the Wall, parce que voilà, je pense que chaque bout de science est quelqu'un qui apporte une brique pour le mur. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
You can't have any police!
We don't need no full control.
the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one cake.
Et bien nous revoici sur Radio Campus Tour après Pink Floyd et nous parlons toujours de cerveau avec Thibault Labout. Alors vous parliez tout à l'heure d'un ligand, alors c'est quoi un ligand plus précisément?
Eh bien un ligand c'est une molécule chimique ou protéique qui se fixe sur un récepteur, il le lie, c'est pour ça qu'on appelle un ligand cette molécule. Et la plupart des ligands ont une action pharmacologique, c'est-à-dire qu'ils vont soit activer, soit empêcher l'activation, soit faciliter l'activation du récepteur sur lequel ils se fixent. Un ligand, c'est un moyen de communication entre les cellules. Mes recherches se sont intéressées pendant ma thèse à un récepteur qu'on appelle GPR88. Pendant mon postdoc, on en a parlé à un autre récepteur qui s'appelle GPR158. Et aujourd'hui, je travaille sur de nouveaux récepteurs, notamment GPR52, pour lequel on sait qu'il est important, notamment dans les troubles de l'attention et du déficit, de l'hyperactivité, qu'on sait qu'ils sont importants pour tout un tas de pathologies. Après, ce qui m'intéresse, moi, c'est le récepteur. Son implication pharmacologique, physiopathologique, elle vient en second, elle vient derrière. Je veux comprendre comment ces récepteurs qui sont orphelins, pour lesquels donc on ne connaît pas le ligand, fonctionnent. Qu'est-ce qui les active et qu'est-ce qu'ils activent dans la cellule? C'est ça qui mène mes recherches et qui, bon, j'espère, mener mes recherches pendant de nombreuses années.
Puisque vous évoquiez la glycine et peut-être la taurine, ça se vend sous forme de gélules sur divers sites internet. Alors, est-ce qu'il suffit de prendre ces gélules pour guérir une dépression?
Eh bien, malheureusement, non. Sinon, on serait déjà tous soignés. On aurait déjà plus le problème de ces pathologies dans nos sociétés. C'est des pathologies complexes à traiter. Il y a des antidépresseurs. Les principaux, les plus connus, sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et puis tout ce qui est dissociatif, comme la kétamine. Ça, c'est les antidépresseurs qui sont approuvés par la FDA et par l'Agence du médicament européenne et française. Mais c'est intéressant que vous posiez la question parce que, en fait, il se trouve que les gens dépressifs ont des dérégulations, c'est-à-dire qu'ils ont soit plus, soit moins de glycine dans le sang ou dans leur corps, en fait.
Donc votre thèse est derrière vous, et il y a aussi l'idée que d'autres entrent dans la carrière quand leurs aînés n'y seront plus. Comment on accompagne des nouveaux étudiants?
Ils viennent au laboratoire avec un projet, avec une idée, et moi je les aide à monter le projet et à poursuivre leurs recherches, à les faire grandir et à ce que leurs travaux soient publiés. C'est une aide technique, mais aussi une aide humaine. Et ensuite, ils partiront. Ils partiront eux aussi en postdoc. Et un jour, j'espère, seront à ce micro.
Ça veut dire que vous n'êtes pas inquiet pour le nombre de postes de chercheurs à pourvoir en France, quand la recherche publique s'entend?
La recherche publique, elle a un mode de financement qui, je pense, est un petit peu en dessous de ses prétentions. J'espère que le futur nous permettra de mettre plus d'argent et plus de moyens à la recherche française. Mais avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, finalement, on n'est pas si mal loti en France. Bien sûr, plus de postes, ce serait mieux. Bien sûr, plus de moyens, ce serait mieux et plus performant. Plus de simplicité aussi, parce qu'on a beaucoup de pression administrative. Mais on ne peut pas se plaindre de tout. Il faut aussi se rendre compte qu'en France, on produit une recherche de qualité, qu'on est attentif à tout un tas d'autres problématiques qui sont transversales à la recherche. Je pense notamment au bien-être des chercheurs et chercheuses. Je pense aussi à tout ce qui est écologique. On produit de la connaissance avec raison.
Vous avez évoqué les États-Unis. Est-ce que vous avez participé aux manifestations Stand Up for Science?
Eh oui, j'étais sur l'esplanade des Tanneurs il y a 15 jours, je crois.
C'est à peu près de s'arrêter quand même ce mouvement. Je crois même qu'il y a des chercheurs états-uniens qui arrivent en France et certains chercheurs français ont eu quelques ennuis aux États-Unis.
Oui, c'est délicat. On se retrouve dans une période qu'on ne pouvait pas prédire et qui est vraiment très difficile pour mes collègues américains. C'est évidemment avec cœur que je soutiens la recherche américaine, la recherche libre, la recherche financée. J'espère qu'on pourra les aider de là où on est. Maintenant, la France est un petit pays comparé aux États-Unis. Je pense qu'il faut voir plus grand, il faut voir à l'échelle de l'Europe. Et probablement qu'il y a un modèle à créer. Et finalement, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Je pense que ce serait génial de pouvoir accueillir de nouveaux chercheurs très compétents qui viendraient avec leurs compétences et leur savoir-faire et publier la recherche chez nous. Ce serait important pour la compétition mondiale qui se passe.
Si les plateformes de publication scientifique sont d'accord pour rendre accessibles les recherches ?
Oui, alors de plus en plus en France, on est obligé, ou en tout cas très fortement incité, à publier en ce qui s'appelle open source, c'est-à-dire on peut tous consulter open access, on peut tous consulter la recherche publique. Il se trouve que la recherche, elle est produite par des fonds publics, avec des fonctionnaires, qu'elle est publiée par ces chercheurs sur des plateformes privées. Certaines plateformes privées font payer l'accès ensuite aux chercheurs et au public. Je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que c'est la moindre des choses de rendre au public ce que le public paye pour produire de la recherche.
Est-ce que les chercheurs peuvent s'ingénier à mettre eux-mêmes leurs recherches en ligne à disposition si
Alors c'est un sujet que les chercheurs sur lequel ils travaillent. Il y a des paramètres qui sont importants, notamment le paramètre de l'impact de nos recherches. Et c'est avec ça qu'on est noté. On ne peut pas révolutionner tout d'un coup, même s'il y a plusieurs mouvements qui sont en route. Je pense que la solution, elle peut très vite se trouver en France.
Il y a aussi le fait que la recherche soit approuvée par les pairs. On ne peut pas balancer en ligne un travail sur lequel on...
Alors en fait, ça existe. Ça existe déjà. C'est tout ce qui s'appelle les préprints. Il se trouve qu'on peut publier de la recherche qui est non révisée par des pairs dans des préprints. Elle est accessible immédiatement et à tous. En revanche, évidemment, on regarde en tant que chercheur cette recherche avec un œil plus prudent que lorsqu'elle est publiée avec des passages de révision par d'autres pairs. Voilà, donc... Mais on peut faire de la recherche révisée, de la recherche vérifiée par les pairs de façon ouverte. Et il y a des journaux qui font ça. Juste, il faut qu'on sélectionne les bons journaux, tant d'un point de vue thématique que d'un point de vue réglementation. Voilà.
Bon, allez, un petit spoiler, c'est quoi les bons journaux pour nos auditeurs s'ils ont envie d'aller lire des choses intéressantes et intelligentes sur la recherche ?
Alors, on n'en a pas parlé, mais la langue de la science, c'est l'anglais. Oui. Il faut l'accepter. Donc, il faut parler anglais pour pouvoir lire la bonne science. Et le top 3, les 3 meilleurs journaux du monde, c'est Cell, Science ou Nature. C'est vraiment les 3 meilleurs journaux du monde. Mais bien sûr qu'il y a de la recherche excellente dans d'autres journaux. L'essentiel de ces journaux, ils sont quand même anglo-saxons ou américains. Mais voilà, il y a de la très bonne recherche partout. Il suffit juste de lire, essayer de comprendre et corroborer avec d'autres publications. Voilà.
Quel sera votre mot de la fin ?
Eh bien, que je suis très content de pouvoir participer à pousser les barrières de la connaissance, que je vais faire de mon mieux pour continuer et que j'invite tout le monde, d'un point de vue participatif, à soutenir la recherche en France et dans le monde.
Donc rendez-vous à la fête de la science.
Oui, rendez-vous à la fête de la science.
D'ici là, vous aurez peut-être eu le temps de confectionner une maquette ou quelque chose pour illustrer les récepteurs du cerveau.
Oui, c'est possible, je demanderai ça à mes enfants.
Eh bien, bon courage à eux et puis merci Thibault Labout.
Merci Mélissa.